Nous lisons dans le livre des Actes des Apôtres, au chapitre 20. Actes, chapitre 20, verset 24. Acte 20, 24. Donc c'est l'apôtre Paul qui parle. L'apôtre Paul est un homme qui a rencontré le Seigneur Jésus. Et cette rencontre qu'il a faite avec Jésus a transformé complètement sa vie. Et voilà le témoignage qu'il fait au verset 24. Mais je ne fais pour moi-même aucun cas de ma vie, comme si elle m'était précieuse, pourvu que j'accomplisse ma course avec joie et le ministère que j'ai reçu du Seigneur Jésus, d'annoncer la bonne nouvelle de la grâce de Dieu. Voilà ce que l'apôtre Paul nous dit. Nous relisons le verset 24. Mais je ne fais pour moi-même aucun cas de ma vie, comme si elle m'était précieuse, pourvu que j'accomplisse ma course avec joie et le ministère que j'ai reçu du Seigneur d'annoncer la bonne nouvelle de la grâce de Dieu. Paul dit, je ne fais aucun cas de ma vie. Je ne fais aucun cas de ma vie. Alors en français, ça veut dire que ma vie n'a pas de valeur. Ma vie n'a plus d'importance. C'est ça que Paul est en train de dire. Il dit, je ne fais aucun cas de ma vie comme si elle m'était précieuse. Donc ma vie, puisque elle n'est pas précieuse à mes yeux, alors finalement, je considère que ma vie n'a plus de valeur. Ma vie n'a plus d'importance pour moi. Ma vie ne compte plus pour moi. C'est ça qu'il dit. Je ne fais aucun cas de ma vie comme si elle m'était précieuse. Qu'est-ce qui fait que beaucoup de chrétiens ne portent pas du fruit selon le Seigneur? Jésus dit dans Jean 15, « Soyez attachés à moi. » Et celui qui s'attache à moi de cette manière-là portera beaucoup de fruits. Et il dit, celui qui porte beaucoup de fruits, qu'est-ce que je fais? Je l'émonde, je le taille, je le brise, je l'humilie même, c'est ça que ça veut dire. Et qu'est-ce qui fait que beaucoup de chrétiens ne portent pas de fruits? Quand on dit porter du fruit, ça veut dire manifester la nature du Seigneur. C'est ça, porter du fruit, c'est manifester la douceur, c'est manifester l'amour, c'est manifester la joie, c'est aimer tout ce qui est lié à Dieu, annoncer la parole, c'est ce qu'il dit ici. Hein. Il dit, je ne fais aucun cas de ma vie n'est pas précieuse, et tout ce que je fais, c'est annoncer avec joie la parole du Seigneur, c'est faire le travail que Dieu me donne à faire. Qu'est-ce qui fait que beaucoup ne portent pas de fruits? En réalité, c'est parce que leur vie a de l'importance. Leur vie compte encore. Leur vie a du prix à leurs yeux. Ce qui fait que finalement, il y aura un conflit entre ce que Dieu demande, ce que Dieu attend de toi, et ce que toi-même, tu vis avec le Seigneur. Qu'est-ce qui fait que beaucoup ne vivent pas la gloire de Dieu? C'est parce qu'en réalité, ils tiennent encore à leur vie. Et de cette manière-là, on ne pourra pas voir la gloire de Dieu. On va le lire, Jésus dit dans Jean 12, 24, le grain de blé, lorsqu'il tombe à terre, il reste seul, il ne produit rien. Mais lorsqu'il tombe et qu'il fait quoi? Qu'il meurt. Là, il portera beaucoup de fruits. Et qu'est-ce qui fait que Beaucoup ne voient pas la gloire de Dieu. Quand je dis gloire de Dieu, ce n'est pas acheter une voiture, ce n'est pas acheter une maison. Ça, ce n'est pas la gloire de Dieu. Ça peut en faire partie, mais ce n'est pas ça la gloire de Dieu. Parce que je peux nous dire que les païens, ceux qui n'ont pas Dieu, ils en achètent des maisons. Il y en a qui en achètent même une maison secondaire, maison tertiaire, je ne sais pas si ça existe. Maison, c'est-à-dire que ça, ce n'est pas un problème, ça. Acheter un appartement, ce n'est pas ça la gloire de Dieu. Parce qu'il y en a qui le font. Tu mets de côté, tu viens avec ton apport, tu vois ton courtier ou ton banquier. Allez, tu signes. Voilà. Ce n'est pas ça la gloire de Dieu. La gloire de Dieu, c'est vivre le ciel sur la terre. Partout où tu passes, tu n'as rien, mais le Seigneur ouvre des portes. Là, on te dit, ici, c'est interdit pour un tel, c'est interdit. On te dit, la file d'attente est tellement longue. Toi, tu arrives, tu passes et on te reçoit. C'est ça la gloire de Dieu. Les gens vont te dire, mais comment tu as fait ? Est-ce que tu as des bras longs ? Tu as des connaissances ? Oui, j'ai une connaissance par excellence, c'est l'Éternel. C'est ça. C'est ça la gloire de Dieu. Qu'est-ce qui fait que beaucoup ne vivent pas cela ? C'est parce que, en réalité, ils tiennent encore à leur vie. Leur vie a beaucoup de prix. Leur vie a beaucoup d'importance. C'est moi. Moi, je pense que. Qu'est-ce qui fait qu'aujourd'hui, dans les milieux chrétiens, il y a beaucoup de divisions aussi. Hormis la question de la conversion, c'est aussi cette question-là. Chacun tient à sa vie. Quand je dis tenir à sa vie, c'est tenir à ce qui est cher, ce qui nous est cher, ce que tu as toujours appris. Bien aimé, ce n'est pas facile d'avoir appris quelque chose pendant longtemps et quelqu'un vient te dire en quelques minutes, bah finalement, tu vois, tout ce que tu as appris n'est pas correct. Tout cela est faux. Recommence à zéro. Ben, c'est pas facile. Ce n'est pas facile. Beaucoup s'énervent. Beaucoup disent, qui es-tu, toi ? Moi, 60 ans de catholicisme. Toi, un petit jeune, tu viens m'apprendre les choses de Dieu. Allez, quitte. Beaucoup tiennent encore à leur vie. Et à cause de cela, ils ne voient pas la gloire de Dieu. Qu'est-ce qui fait que beaucoup ne ressemblent pas finalement à Jésus? Parce que l'objectif, c'est Luc 6,40 qui nous dit quoi? Qui nous dit, tout disciple accompli sera comme le maître. Mais qu'est-ce qui fait que beaucoup ne ressemblent pas à Jésus finalement? C'est qu'on tient à notre vie. Je tiens à sauver ma vie. Je tiens à mon honneur. Je tiens à ma fierté. À ce qu'on dise, un tel, il est comme ci. Un tel, il est comme ça. C'est ça, finalement. Or, lorsque nous voyons Jésus, il est écrit dans Philippiens 2 que Jésus qui est Dieu, Jésus qui existait en forme de Dieu, Jésus qui est saint, sans péché, qui était dans la gloire, a accepté de venir sur la terre. Il a renoncé à son trône. Il a renoncé à sa royauté, à sa gloire. Il est venu sur la terre. Il a été sur la terre comme un serviteur, lavant les pieds des disciples, parfois se faisant taper devant ses juges, devant le tribunal. On se rappelle, lorsqu'il est devant les juges, quelqu'un vient, il gifle. Jésus lui dit, mais pourquoi tu me tapes? Si j'ai fait quelque chose de mauvais, mais montre-le-moi, dis-le-moi, bien-aimé. Voilà Jésus, le Fils de Dieu, qui a ressuscité des morts. Mais qui a accepté d'être humilié? On a craché sur lui. On s'est moqué de lui jusqu'à la croix. Il a dit, Père, pardonne-leur, car ils ne savent pas ce qu'ils font. Le thème de notre partage aujourd'hui, c'est « Je ne fais aucun cas de ma vie ». On ne peut pas devenir chrétien si on n'a pas renoncé à sa vie. C'est impossible. C'est impossible, totalement impossible. On ne peut même pas négocier. Il y a des gens qui sont très forts pour négocier. Même là où on ne négocie pas, il va essayer quand même de négocier pour gagner son compte. Mais avec Dieu, ça ne marche pas comme ça. C'est impossible de devenir chrétien et refuser de renoncer à sa vie. C'est impossible. C'est ça que je voudrais qu'on retienne pour l'exhortation de ce matin. Retenons cela. Si on sort d'ici, on nous demande qu'est-ce qui a été dit, on ne peut pas devenir chrétien si on tient encore à sa vie, si on tient encore à sa fierté. Si on tient encore à son honneur, si on tient encore à son nom, je ne dis pas que nous sommes contre le respect, je ne dis pas cela. Au contraire, le Seigneur veut qu'on respecte. L'apôtre Paul dit à Timothée, Il dit, certes, tu es serviteur de Dieu, mais quand tu parles aux aînés, considère que ce sont des aînés, des anciens. Quand tu parles aux vieillards, parle-leur comme à tes pères. Quand tu parles aux mères, parle-les comme à tes mamans. Mais quand tu parles aux jeunes, parle à ces gens aussi comme à des jeunes. Mais en même temps, sois prêt à ce que tu sois calomnié. Sois prêt à ce que quelqu'un te manque de respect. Sois prêt à ce que quelqu'un dise des mensonges. L'apôtre Paul dit dans 2 Corinthiens 6, au verset 8, il dit que je sais vivre dans la bonne comme dans la mauvaise réputation. Bien-aimé, comment accepter ça? C'est puisque sa vie ne comptait plus pour lui. C'est ça. Je pense qu'aujourd'hui, si tu entends que on t'a calomnié, on a dit ça sur toi, je pense que là, on va voir certains chrétiens qui vont dire, moi, ils vont voir de quel bois je me chauffe. Mais tu vas te chauffer jusqu'à brûler, il n'y a pas de problème. Dieu n'aura pas peur, parce que lui mettra encore des situations. Il y a des gens qui ne supportent pas la contrariété, qui ne supportent pas la contradiction. Tu as été dans le monde païen comme ça, mais quand tu viens à Dieu, il n'y a qu'un seul chef. Il n'y a qu'un seul maître à bord, c'est l'Éternel. Il n'y en a pas deux, il n'y a qu'un seul. Et lui, il va te mettre dans des situations où tu vas devoir renoncer à ta vie. Où tu vas devoir comprendre qu'il y a plus fort que toi, bien-aimé. C'est une réalité. Tu as beau être respecté par tout le monde, il viendra un jour où quelqu'un d'autre ne va pas te respecter. Où quelqu'un va te tenir tête, parfois même un enfant. Tu vas faire quoi? Tu vas taper? Tu vas faire quoi? Tu vas crier? Mais tu as beau crier, la personne te regarde, te dit rien du tout. Ça ne me fait pas peur. On ne peut pas devenir chrétien si on tient à sa vie. Paul dit, je ne regarde pas ma vie comme si elle était précieuse. Non. Il dit, je ne fais aucun cas de ma vie. Finalement, si je vis, c'est ce qu'il dit dans Galates 2:20, il dit, si je vis, ce n'est plus moi qui vis, c'est Christ qui vit en moi. Finalement, ma vie à moi n'a plus de valeur. Bien-aimé, c'est ça. Ma vie n'a plus de valeur. Nous lisons 1 Corinthiens 6, voyons ce que l'apôtre Paul nous dit. 1 Corinthiens 6, à partir du verset 19 au verset 20. 1 Corinthiens 6, 19 à 20. Ne savez-vous pas que votre corps est le temple du Saint-Esprit qui est en vous et que vous avez reçu de Dieu? Et que vous ne vous appartenez point à vous-même, car vous avez été rachetés à un grand prix. Glorifiez donc Dieu dans votre corps et dans votre esprit, qui appartiennent à Dieu. Dans deux passages, donc les deux versets qu'on a lus, on nous dit au verset 19 que nous ne nous appartenons plus. On dit au verset 20 que notre corps, notre esprit, tout notre être entier appartient à Dieu. C'est ça, bien-aimé, c'est ça. Alors si nous n'avons pas compris cela, alors nous n'avons pas compris c'est quoi la vie chrétienne. Peut-être que nous avons adhéré à une certaine logique qui est correcte, une certaine logique qui est bonne, une certaine morale qui est censée, parce que ce qui vient de Dieu a plus de sens que ce que l'homme peut donner. Il y a des gens qui sont venus comme ça, en pensant que c'est correct, c'est bien. Ce qui est dit, il faut aimer les gens, il faut... Oui, mais le Seigneur nous dit, non seulement tu dois aimer, mais tu dois aimer au point de mourir pour l'autre, c'est ça. Mais comment accepter cela si tu tiens encore à ta vie? C'est pas possible. Comment accepter d'aimer? Comment accepter 1 Corinthiens 13? Comment accepter ça? Si tu tiens encore à ta vie, la Bible dit dans 1 Corinthiens 13 que l'amour supporte tout. La chair va te dire, mais non, là c'est trop. C'est abusé, comme les jeunes disent. C'est trop. Comment tu vas supporter ça? Mais tu passes pour un poltron. Tu passes pour un peureux. On va encore se moquer. La Bible dit, l'amour supporte tout. L'amour croit tout. C'est-à-dire, la personne vient te parler, tu crois. Elle revient encore, elle te dit encore autre chose, tu crois. Elle revient, mais dans notre langage courant, on va dire quoi? Cette personne est naïve. Elle est naïve. Non, non, ce n'est pas la naïveté. C'est la foi en Dieu. Et puisque j'ai foi en Dieu, quand tu viens me raconter tes histoires, si Dieu veut que je te reprenne en te disant, écoute, tu as menti, tu as... je vais le faire. Mais si Dieu permet que je me taise, parce qu'il veut me briser moi, peut-être que toi, dans ta tête, tu dis, ah, je l'ai bien eu. Dieu permettra. Vous savez, Samuel vient voir Saül, la deuxième fois, 1 Samuel 15, qu'est-ce qui se passe? Quand il arrive, Saül arrive, il se précipite vers Saül, vers Samuel, pardon, pour lui dire bonjour. Au moment où il arrive, qu'est-ce qui se passe? Bêlement de mouton. Samuel lui dit, mais attends, qu'est-ce qui se passe? Vous êtes là, il y a des troupeaux ici, il y a un troupeau ici avec vous. Qu'est-ce qui s'était passé? Saül devait tuer tout ce qui appartenait aux étrangers. Et il a gardé certaines choses. Et Dieu a révélé ça à Samuel. Et quand Samuel arrive, le bruit lui-même se fait retentir. Finalement, Saül est démasqué. Donc Samuel n'a pas eu besoin de lui dire, écoute, Dieu m'a montré en vision cette nuit. Il n'a pas eu besoin de dire les choses. Les choses sont sorties toutes seules. Bien aimé, c'est ça. C'est ça, la gloire de Dieu. La gloire de Dieu, c'est quelqu'un qui veut te faire du mal. Tu arrives, rien que par ta présence, tu vois la personne qui vient en train de pleurer pour dire, pardonne-moi. Mais qu'est-ce qui se passe? Non, parce que j'ai voulu faire... Bien aimé, c'est ça la gloire de Dieu. Il n'y a pas besoin de faire des complots pour savoir, tiens, qu'est-ce que tel a dit, qu'est-ce... Non, il n'y a pas besoin de cela. Je fais confiance en Dieu. Et le Dieu qui est tout-puissant fera que celui qui a de mauvaises intentions, qu'il soit dévoilé, non pas pour être humilié, mais dévoilé pour qu'il puisse se repentir. C'est ça le but de Dieu. Mais comment arriver à cela, bien-aimé? On doit accepter de mourir à nous-mêmes. Qu'est-ce qui fait qu'aujourd'hui, beaucoup de pasteurs sont devenus des détectives privés? Ils ont leurs émissaires qui leur donnent des informations. Ah, tu sais que dans telle maison, le frère tel prie avec un tel. Ah, alors le type a peur. Il se dit, ah, on va me faire un coup d'État parce qu'il y a des réunions souterraines, clandestines. On va me faire un coup d'État. Il commence à avoir peur. Il va mettre des gens partout pour surveiller les gens. Bien-aimé, c'est pas ça la gloire de Dieu. C'est pas ça la gloire de Dieu. Mais comment accepter de telles situations? C'est quand ta vie n'a plus de valeur. Bien-aimé, on peut parler de Paul pendant 10 jours, 15 jours, 1 an, 10 ans. Sa vie est un véritable témoignage pour moi-même, mais pour nous tous. Qu'est-ce que Paul n'était pas? Qu'est-ce que Paul n'a pas eu? Qu'est-ce que Paul n'a pas reçu comme instruction? Sur tous les plans. On peut le lire, hein? Philippiens 3. Philippiens 3, on peut commencer à partir du verset 1er. Ou on peut commencer au verset 4. Verset 4 jusqu'au verset 8. Moi aussi, cependant, Philippiens 3, 4. Moi aussi, cependant, j'aurais sujet de mettre ma confiance en la chair. Si quelque autre croit pouvoir se confier en la chair, je le puis bien davantage. Moi, il parle de lui maintenant, circoncis le huitième jour, de la race d'Israël, de la tribu de Benjamin, hébreu né d'hébreu, quant à la loi, pharisien. Donc Paul maintenant est en train de sortir son CV. Il dit, il y a des gens qui servent Dieu, mais qui sont hébreux, parfois avec des mélanges, qui sont hébreux, mais qui ne sont pas issus de la tribu de Benjamin. Qui sont hébreux, mais qui ne sont pas circoncis le huitième jour. Ils sont circoncis, mais pas le huitième jour. Lui, il dit, voilà moi qui je suis. Et non seulement ça, il dit, quant à la loi, je suis pharisien. Pour être pharisien, il y avait des conditions drastiques. Il fallait être circoncis le huitième jour, il fallait avoir un certain âge, il fallait être né, comme c'est écrit là, hébreu, d'hébreu, il fallait avoir un descendant qui était pharisien. Donc c'est-à-dire que c'était des gens qui étaient très pieux, très, très, à cheval sur la loi. Verset 6, quant au zèle, persécuteur de l'Église. Il dit, j'étais tellement pharisien que je persécutais même l'Église. Parce qu'il y avait des pharisiens qui se contentaient de vivre leur vie, tout simplement. De pharisiens, aller au temple, revenir. Lui dit, moi, non seulement j'étais pharisien, mais j'étais zélé pour anéantir les disciples de Jésus. Et dans Acte 9, on sait que on dit qu'il persécutait les chrétiens pensant rendre un culte à Dieu. Il dit irréprochable. Allez. Il dit irréprochable à l'égard de la justice de la loi. Mais ces choses qui étaient pour moi des gains, je les ai regardées comme une perte à cause de Christ. Et même, je regarde toutes choses comme une perte à cause de l'excellence de la connaissance de Jésus-Christ, mon Sauveur, pour lequel j'ai renoncé à tout, et je le regarde comme de la boue afin de gagner Christ et d'être trouvé en lui, non avec ma justice, celle qui vient de la loi, mais avec celle qui s'obtient par la foi en Christ. La justice qui vient de Dieu par la foi. Voilà ce que l'apôtre Paul dit. Voilà ce qu'il dit. Il dit que toutes ces choses qui étaient pour moi un gain, qui était ma fierté, j'ai renoncé à toutes ces choses. Non seulement j'ai renoncé à ça, mais je regarde comme de la bouche. Je pense que parmi nous, il y a des choses auxquelles on a renoncé. Mais on sait que faut pas trop m'approcher. C'est peut-être la musique, c'est peut-être une chanson, c'est peut-être quelque chose qu'on écoutait autrefois. On sait que quand on écoute ça, on préfère sortir de la pièce ou du magasin parce qu'on se dit, là... Rien que ce son-là me rappelle des choses. On le sait. Mais lui, Paul, il dit quoi ? J'ai regardé ces choses comme... J'ai renoncé d'abord à ça, mais je regarde ça comme de la boue. C'est-à-dire qu'il dit, non seulement j'ai renoncé à cette vie passée, mais cette vie passée-là est sale. Elle est pourrie. Elle n'a pas de valeur. Elle est répugnante. Elle ne m'inspire pas du tout. Voilà ce que Paul est en train de dire de son ancienne vie. Bien-aimé, c'est ça. Beaucoup sont chrétiens et sont attachés à leurs valeurs, à la culture d'origine. Je suis un tel. Nous, dans la famille un tel, on ne nous parle pas comme ça. Bien-aimé, tu as tapé à côté. Tu as tapé à côté. Ou alors, si tu n'as pas tapé à côté... Tu n'as pas la bonne porte ce matin, le Seigneur frappe à ta porte pour te dire, renonce à cela. Nous, chez les tels, on n'accepte pas. Tu as tapé à côté. Il dit, toutes ces choses qui étaient pour moi une fierté, une gloire, j'ai renoncé à cela. Et une chose importe, c'est connaître Christ. C'est parvenir à cela. C'est saisir Christ, c'est devenir semblable à lui. C'est ça, bien-aimé. Je ne fais aucun cas de ma vie. C'est ça, être chrétien. C'est accepter cela. Tu as l'habitude où partout où tu passes, on dise son éminence, son excellence, président tel, chef tel, ou pasteur tel. Tu arrives quelque part, quelqu'un t'appelle par ton prénom. Parfois, il est plus jeune que toi. C'est comme j'écoutais un faux prédicateur. Quelqu'un m'a envoyé une vidéo. En Côte d'Ivoire, il dit qu'il entre, il va au restaurant avec ses, bien sûr, ils sont toujours accompagnés, leurs acolytes. Et au restaurant, il y a une dame, la serveuse, qui vient. Elle dit, monsieur, elle appelle par son nom. Monsieur Tel, qu'est-ce que vous voulez ? Alors là, c'est lui-même qui parle. Hein. Il dit, toi, tu m'appelles par mon nom ? On a levé le mouton ensemble. Ces colistiers, là, ces hommes qui étaient là se lèvent. Ils tiennent la dame, la serveuse. Pour lui dire, tu parles pas comme ça au bishop. À papa. Tu ne parles pas comme ça à papa. Bien-aimé, c'est ça. Et c'est quelque chose, c'est risible, hein, ça fait rire. Mais c'est une réalité. Il y a des gens qui tiennent à cela. Tu arrives quelque part, on t'appelle sans qu'on te dise ancien ou diacre ou pasteur. C'est comme si on t'a insulté. On t'a insulté. Or, la vie chrétienne, c'est apprendre à renoncer. Qu'est-ce qui fait ta fierté? Qu'est-ce qui fait ta fierté? Qu'est-ce qui fait ta gloire? Qu'est-ce qui fait que tu penses que tu es quelqu'un? Qu'est-ce qui fait cela? Le Seigneur va venir, il va briser ça. Et c'est ce que Paul est en train de dire. Il dit, si on doit prendre la chair, on va se comparer avec ces gens-là qui se moquent de moi, eh ben, je suis plus parfait qu'eux, parce que moi, je suis irréprochable vis-à-vis de la loi. Donc tout ce que la loi demande, moi, humainement, j'ai tout respecté. La circoncision, les enseignements, la famille d'où je, de laquelle je sors, le zèle même, je suis plus zélé qu'eux. Il dit, mais toutes ces choses-là, en Jésus, n'ont plus de valeur. Bien-aimé, c'est ça. Beaucoup de chrétiens tiennent encore à leur vie. Qu'est-ce qui fait que parmi les chrétiens, on se retrouve avec à gérer des disputes, des problèmes? Tel ne m'a pas dit bonjour. Tel ne m'a pas fait ceci. Tel ne m'a pas dit cela. Ah, j'ai appris qu'il y a eu un repas, un barbecue chez tel frère. Je n'ai pas été convié. Ça veut dire qu'on ne m'aime pas. Bien aimé, quelqu'un qui a renoncé à sa vie, il dit peu importe, peu importe. Peu importe, et alors, quand on t'invite, tu manges, et demain, ça change quoi pour toi? Qu'est-ce que ça change? Ça change quoi? Ça ne change rien du tout. Et le Seigneur veut que nous puissions comprendre que ce qui est important, c'est de le saisir, lui. C'est de ressembler à Jésus. Or, pour ressembler à Jésus, il faut apprendre à renoncer à soi-même. Il faut accepter de dire que ma vie ne compte plus. Ma vie n'a plus de valeur. Luc 9. Luc chapitre 9. Verset 23. Luc chapitre 9. Verset 23. Luc 9, 23. Puis il dit à tous, si quelqu'un veut venir après moi, qu'il renonce à lui-même, qu'il se charge chaque jour de sa croix et qu'il me suive. Car celui qui voudra sauver sa vie la perdra, mais celui qui la perdra à cause de moi la sauvera. Que servirait-il à un homme de gagner le monde s'il se détruisait ou se perdait lui-même? Voilà ce que le Seigneur dit. Il dit, quiconque veut me suivre, il doit renoncer à lui-même. Il doit prendre sa croix chaque jour et il doit me suivre. Bien aimé, c'est ça l'évangile. Quiconque veut me suivre, qu'il renonce à lui-même. Qu'il renonce à lui-même. Tout ce qui fait sa fierté, on se rappelle dans Luc au chapitre 18, l'homme qui vient voir Jésus pour lui dire, maître, mais que dois-je faire pour aller au ciel? Jésus lui dit, mais qu'est-ce qui est écrit dans la loi? Honore ton père et ta mère. Il dit, ah, oh, maître, mais tu sais, mais depuis longtemps je fais ça, j'honore mes parents. Je fais du bien autour de moi. Jésus lui dit, c'est bien. Il dit, regarde, il te manque une chose. Vends tout ce que tu possèdes, toutes tes richesses, vends-les et suis-moi maintenant. Et on nous dit quoi? L'homme s'en retourna tout triste. Il était triste. Pourquoi il était triste? Parce que ce que Jésus demandait était plus fort. Il était trop fort pour lui. Il ne s'y attendait pas. Il pensait que le Seigneur allait lui donner une liste de choses à faire. Tu dois te lever tôt le matin, prier 4 fois, tu dois faire ceci, tu dois... Il attendait ça. Jésus lui dit, non, si tu veux me suivre, si tu veux être parfait, alors vends tout ce que tu possèdes et suis-moi. Vends toutes tes richesses. Vends tout ce que tu as comme valeur. Tout ce qui est cher à tes yeux. Et la vie pour l'homme est chère. La vie pour l'homme, c'est ce qu'il a de plus précieux. Quelqu'un peut être pauvre, ne rien avoir, mais avoir la vie. Et parce qu'il a la vie, il est capable de se mettre devant un président, d'insulter le président. Même s'il n'a rien, mais il a la vie. On a vu un Bush qui est allé quelque part en Irak, quelqu'un a pris la chaussure, il a, vous rendez compte, président des États-Unis. Et pas n'importe lequel. George Bush, c'est encore, on dirait, bon, peut-être Trump, excusez-moi, mais George Bush, quelqu'un a pris la chaussure, un journaliste, il a lancé la chaussure sur le président. Donc l'homme, par sa vie, il a la fierté. Et cette fierté-là, à un moment donné, va entrer en conflit avec Dieu. Dieu va te dire, écoute, je veux que tu te laisses faire. Matthieu 5, 38, ne résistez pas aux méchants. On te tape sur une joue, tends l'autre. Donne l'autre joue pour qu'on te tape encore. Parfois, au moment où on te tape, tu dis non, ça fait pas mal, fais encore fort, plus fort. Laisse-toi faire. Bien-aimé, pour accepter ça, pour vivre ça, il faut que ta vie n'ait plus de valeur. Ta vie n'ait plus de valeur. C'est ce que Jésus dit. Il dit, quiconque veut me suivre, qu'il renonce à lui-même. C'est ça notre plus grande fierté, notre plus grande richesse, c'est nous-mêmes. Le reste, ça vient après. Mais c'est nous-mêmes notre propre richesse. Et le Seigneur, c'est ça qu'il veut. Parce que s'il voulait l'argent, il aurait dit à cet homme, ben écoute, viens avec ton argent, on va travailler ensemble, ça va nous aider. Non, il dit, vends tout, tout ce que tu possèdes. Sépare-toi de ces choses, viens et suis-moi. Alors là, tu seras parfait. Et l'homme a refusé cela. Il a dit, non, Dieu m'en demande beaucoup. J'ai déjà fait beaucoup de sacrifices. J'ai déjà donné beaucoup, mais Dieu ne demande pas beaucoup. Dieu demande tout. Il y a une nuance. Nous, on compte. On dit, mais regarde, j'ai fait ça. Lundi, j'ai fait ça. Mardi, j'ai fait ça. Mercredi encore. Jeudi encore. Vendredi. Samedi. Non, Dieu, lui, il ne demande pas beaucoup. Il demande toute ta vie. C'est ça qu'il demande. Toute ta vie. Tout. C'est ce qu'il a dit à cet homme. Voilà pourquoi il était triste. Il est parti. Malheureux. Et les disciples regardent le Seigneur et disent, maître, oh là là, mais c'est dur ce que tu dis. Qui peut être sauvé? Jésus dit, ce qui est impossible aux hommes est possible à Dieu. Il est plus facile pour un chameau de passer par une aiguille, c'est-à-dire les portes des villes. Il est plus facile pour un chameau de passer par là qu'un riche d'entrer dans le royaume de Dieu. Maintenant, quand on dit riche, ce n'est pas seulement celui qui a de l'argent. C'est celui qui pense avoir des richesses. Comme on a dit, c'est notre honneur, ce sont nos diplômes. Il y a des gens, tu as fait des études d'ingénieur. Peut-être en audiovisuel, en tout ce qui est tout cela. Tu arrives dans une église, ton raisonnement voudrait quoi? Bah, que tu travailles à la sono. Parce que tu as des acquis, parce que tu as des compétences que les autres n'ont pas. Et souvent dans les églises, bon, c'est la grâce de Dieu, c'est tous des autodidactes, des gens qui ont appris tout seuls. Ben, quand tu arrives, la logique voudrait qu'on dise, ah ben, tiens monsieur, voilà la sono, la table de mixage est là, voilà, on a besoin de... Mais non, avec Dieu ça ne marche pas comme ça. Tu viens comme ça, on dit, ah, y a une place, on dit oui, oui, il y a le ménage à faire, on manque du personnel au ménage. Ah, bien aimé, ce sont des réalités. C'est là que le Seigneur nous attend. Oui, mais je trouve que le son... Ah, on dit oui, oui, c'est pas grave, on se débrouille comme ça, mais nous, on a besoin de monde au ménage. Alors toi, monsieur l'ingénieur, toi, monsieur le grand musicien, tu te retrouves à faire le ménage pour la gloire de Dieu. Amen, que Dieu soit béni. Que Dieu soit béni, c'est ça. C'est ça. Et c'est là que Dieu nous attend. Il dit, si quelqu'un veut me suivre, si, c'est du conditionnel, c'est-à-dire que tu veux ou tu ne veux pas. Mais si tu veux me suivre, alors renonce à toi-même, renonce à ta fierté, renonce à ta façon de penser, il y a des gens, c'est moi je pense que. Bah pour moi, mais avec te pour moi, tu vas arriver à contester tout, tu vas contester même Dieu. Tu arriveras à contester Dieu. Parce que finalement, c'est toi. Or, Dieu ne voit pas comme toi. Il est écrit dans Ésaïe 55 que mes pensées ne sont pas vos pensées. Ma façon de faire n'est pas la vôtre. Donc, à un moment donné, tu voudras aller à gauche. Dieu dira non, pas à gauche, à droite. Tu vas aller à droite, Dieu dit, non, maintenant j'ai changé à gauche. Ah, tu vas dire, non, là, non, c'est trop là. Ah ben oui, mais Dieu, c'est ça. Dieu, c'est ça. On ne peut pas suivre le Seigneur si on n'a pas renoncé à soi-même. On n'a pas renoncé à la colère. On n'a pas renoncé à la haine. On n'a pas renoncé à la méchanceté. On ne peut pas suivre le Seigneur. Et tout ça, c'est renoncer à sa vie. Et pourquoi renoncer à sa vie? Pourquoi renoncer à sa vie? Pour que la vie de Dieu se manifeste. Nous lisons Jean 12. On a évoqué ce verset-là rapidement. Pourquoi renoncer à sa vie? On a dit en introduction que beaucoup finalement ne ressemblent pas à Jésus parce qu'ils n'ont pas renoncé à leur vie. Ils tiennent encore à leur vie. Leur vie est précieuse. Jean 12, 24. Pourquoi renoncer à sa vie? En vérité, je vous le dis, si le grain de blé qui est tombé en terre ne meurt, il reste seul. Mais s'il meurt, il porte beaucoup de fruits. Celui qui aime sa vie la perdra, celui qui est sa vie dans ce monde la conservera pour la vie éternelle. Voilà ce que le Seigneur dit. En vérité, je vous le dis, si le grain de blé tombe à terre, s'il reste seul, il ne produit rien. Mais s'il meurt, il produit beaucoup de fruits. Il produit la vie. Pourquoi renoncer à notre vie pour que la vie de Dieu se manifeste? Il n'y a que par la mort, notre mort à nous, le fait qu'on accepte de dire, bon, Seigneur, j'accepte que tu t'exprimes en moi. C'est là que le Seigneur va s'exprimer. Deux vies ensemble ne peuvent pas cohabiter en nous. Il y aura un conflit. Et bien souvent, c'est la chair qui aura raison. C'est la chair qui va dominer. Voilà pourquoi l'apôtre Paul dit, ne marchez pas selon la chair, marchez selon l'esprit. Car ils ont des désirs, la chair et l'esprit, opposés. Et Jésus dit, celui qui accepte de semer sa vie, celui qui accepte de mourir à lui-même, celui qui accepte de renoncer à sa vie, de se laisser faire, alors celui-là va voir la gloire de Dieu. Mais cette gloire-là passe par sa propre mort, le fait que je n'existe plus, le fait que je n'ai plus de valeur, le fait que finalement ma vie ne compte plus. C'est ça. Colossiens 3. Toujours la même idée. Pourquoi renoncer à sa vie? C'est pour que la vie de Christ s'exprime. Pas qu'un peu, mais qu'elle s'exprime totalement. Colossiens 3. Voilà ce que l'apôtre Paul dit. J'aime beaucoup ce passage. Verset 1er. Colossiens 3. Si donc vous êtes ressuscité avec Christ, cherchez les choses d'en haut, où Christ est assis à la droite de Dieu. Verset 2. Affectionnez-vous aux choses d'en haut et non à celles qui sont sur la terre, car vous êtes morts et votre vie est cachée avec Christ en Dieu. Quand Christ, verset 4, j'aime beaucoup, quand Christ, votre vie, paraîtra, alors vous paraîtrez aussi avec lui dans la gloire. Et on peut continuer à lire tout ce qui est en bas. Je nous invite à le lire à la maison, où l'apôtre Paul nous donne réellement c'est quoi la vie chrétienne. Il dit, supportez-vous. Si quelqu'un a un sujet de se plaindre de l'autre, qu'il accepte de vivre avec. Si vous viviez autrefois dans les désirs de l'impudicité, tout cela, renoncez au mensonge, renoncez à cela. C'est là que l'apôtre Paul donne tout ça. Mais il commence par dire qu'on doit accepter, puisque nous sommes ressuscités avec Christ, puisque nous sommes morts et que nous sommes une nouvelle personne, alors Christ, notre gloire, verset 4, lorsqu'il paraîtra, nous paraîtrons avec lui. Bien sûr, il parle, ce texte peut être compris de deux façons. Il y a la première façon qui est absolue, quand Christ reviendra chercher l'Église, on paraîtra avec lui dans la gloire. Mais il y a aussi le sens où il dit, quand Christ va paraître dans ta vie, alors tu paraîtras avec Christ dans la gloire. C'est-à-dire que la gloire de Christ va se manifester en toi. La vie de Christ va se manifester. Puisque tu es une nouvelle personne, tes désirs à toi, ce sont les désirs du ciel. Les désirs du ciel, c'est quoi? C'est accepter de se laisser faire, c'est aimer même ceux qui ne nous aiment pas, c'est prier pour ceux qui nous persécutent. C'est... Mais comment arriver à cela? Il faut d'abord accepter de renoncer à soi. Bien aimé, prier pour quelqu'un qui te fait du mal, c'est pas humain. C'est pas humain. Parce que la chair, qu'on le veuille ou pas, te dira non, c'est pas possible. Il est trop méchant. Il m'a fait trop de mal. Déjà, on a du mal à pardonner. Alors, prier pour la personne, c'est encore plus difficile. Mais cela est possible quand on a accepté de renoncer à soi-même. Quand on se dit, bon, c'est pas grave. Tout ce qui importe, c'est Christ. Tout ce qui importe, c'est Jésus. C'est ce que Paul dit. Les gens se moquaient de Paul. Ils disaient, mais écoute, mais vous suivez cet homme-là, Paul, il est en prison. Mais si, il était de Dieu. Mais il sortirait de prison. Dieu le sortirait de prison. Pourquoi Dieu le laisse en prison? C'est parce qu'il est mauvais. C'est parce qu'il a des péchés. C'est parce que ceci, c'est parce que cela. Et Paul dit, je sais vivre dans 2 Corinthiens 6 qu'on a pas lu, qu'on a évoqué. Il dit, moi, je sais vivre dans la bonne ou la mauvaise réputation. Il dit, peu importe. Tant que l'évangile de Christ est annoncé, c'est le plus important. Je ne veux pas chercher à me justifier pour dire je suis dans les liens parce que le Seigneur a voulu ainsi. Parce... Il dit non, ça ne sert à rien. Ça ne sert à rien de chercher à me justifier. De toutes les façons, je sers de libation. Libation, c'est-à-dire qu'on a fait le sacrifice, on a fini le sacrifice et on prend de l'eau ou un liquide qu'on met maintenant pour dire voilà, le sacrifice est terminé. Il dit c'est ça. Ce qui manque aux souffrances de Christ, moi j'achève cela dans ma propre chair, c'est ça ce que Paul dit. Il dit, moi, je n'ai plus de valeur. Qu'on se moque de moi, qu'on dise qu'il a fait ceci, il a fait cela, il dit, ça n'a pas de valeur. Tout ce qui importe, il dit, je fais une chose, je poursuis ma course, j'oublie ce qui est en arrière, je regarde devant. C'est ça, bien-aimé. C'est ça, bien-aimé. Mais pour y arriver, on doit accepter de renoncer à nous-mêmes, de renoncer à notre fierté, de renoncer à notre moi, de renoncer à toutes les valeurs qu'on pense être essentielles et nécessaires pour voir la gloire de Dieu, pour que le Seigneur s'exprime, on doit accepter de renoncer à notre moi, bien-aimé. C'est ça. On doit accepter cela. Il y a des chrétiens qui sont connus, parfois même dans les milieux des païens, comme étant des gens méchants, des gens qui cherchent toujours à avoir raison, des gens qui ont toujours quelque chose à dire, quelque chose à redire, qui ont toujours une critique, qui ont... Bien-aimé, c'est pas ça, un chrétien. C'est pas ça. Je ne dis pas qu'on ne doit pas dire quand on a des choses à dire. Oui, on peut le dire. On peut le dire. Mais je pense que nous nous connaissons. Parfois, tu sais que le Seigneur veut que tu te taises. Mais tu dis non, 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 non. Là, il faut que ça sorte. On va se taire après. On verra après. Les dégâts collatéraux, on va arranger ça après. Tu exploses. Et parfois, tu exploses comme ça. Et il n'y a même plus moyen de réparer, malheureusement. C'est ça. Et le Seigneur nous dit, acceptons de renoncer à nous-mêmes pour que le Seigneur s'exprime, pour que la gloire de Dieu se manifeste. Pour que la gloire de Dieu se manifeste, c'est ça que le Seigneur attend de nous. Partout où nous sommes, acceptons. Pourquoi renoncer à nous-mêmes? Puisque le Seigneur nous a choisis comme un canal pour le salut des autres. Deuxième point, le Seigneur nous utilise, nous, comme un canal pour les autres. Mais pour utiliser ce canal-là, il faut qu'il le brise d'abord. Il faut que ce soit un canal qui soit un canal qui lui appartienne totalement. Qui lui appartienne totalement, bien-aimé. Quelqu'un comme Joseph qui a eu des songes clairs de Dieu. Et dans ses songes, il voit qu'il domine sur ses frères. Mais quelle a été la vie de Joseph? Ça a été quoi? Ça a été la haine dont il a fait l'objet de la part de ses frères. Bien-aimé, c'est une réalité. Combien aujourd'hui dans les familles, depuis que tu es devenu chrétien, les gens te considèrent comme un paria? Et là, les gens sont malheureux, ils cherchent... par force, relations charnelles, pour... Mais malgré que tu fasses ça, en tout cas, ça ne marche pas. Ça ne marche pas. Moi, ça m'est arrivé de faire ça avec un ami, pour lequel je témoigne souvent. Voulant forcer la relation, ça ne marche pas. Parce que tu veux toujours être bien vu. Tu veux dire, mais non, nous sommes une nouvelle personne. Parfois, il n'y a pas que le côté physique, il y a le spirituel aussi, que l'autre ne supporte pas du tout. Du tout. Il sait que s'il fait une soirée, une fête, toi, tu vas venir comme le... étant le rabat-joie, celui qui casse l'ambiance. Bah, il t'invite pas, mais Dieu te préserve. Quand c'est comme ça, tu dis, ah Seigneur, merci de m'avoir préservé. Mais là, nous, on te dit, oh là là, pont, ils ont fait ça, ils m'ont pas dit, ils m'ont pas... Bien aimé, accepte de relancer. Joseph a subi la haine de ses frères. Il y a eu des mensonges. La femme de son chef qui dit, voilà ce que cet homme m'a fait, vous avez ramené un hébreu, il s'est joué de moi. Joseph retourne en prison, bien-aimé. En tout cas, en aucun cas on lit que Joseph est allé pour se justifier, pour dire non, écoutez, je vais rétablir la vérité, écoutez ma version, voilà, cette femme a voulu me piéger. Non, pas du tout. Joseph a accepté. Alors je ne dis pas que c'est facile, c'est pas facile. Mais quand on a renoncé à sa vie, on peut le vivre facilement. Les gens qui sont autour vont te dire, mais attends, mais ça va? Mais oui, toi-même qui vis la situation, ça va. Parce que finalement, ce n'est pas moi qui vis, c'est Jésus qui vit en moi. S'il y a un problème, eh bien, le Seigneur lui-même se justifiera. Voilà. Voilà. Joseph a été vendu par ses frères. Bien-aimé, je pense que parmi nous ici, si tu apprends que ta famille t'a vendu, ça ne s'est pas vendu comme un esclave, mais vendu peut-être dans une façon de faire, de penser. Quelle trahison! Combien vont courir au scandale? Faut dire, même un tel que je pensais, même un tel. Ah, bien-aimé, acceptons de renoncer à notre vie. Accepte de renoncer, dire, bon, ma vie ne compte plus. Voilà, ma vie ne compte plus. C'est le Seigneur qui compte, c'est tout. C'est ça. Et qu'est-ce qui se passe après? Chapitre 45 et plus loin. Lorsqu'il y a la famine, les frères de Joseph viennent en Égypte. Et Joseph met un scénario en place. Parce qu'il a compris finalement que c'était ses frères. Alors il dit, est-ce que vous n'avez pas un autre frère qui reste? Allez chercher ce frère, sinon vous restez là. Il a mis un scénario. Finalement, il finit par dire à ses frères, parce qu'il s'est fait reconnaître à ses frères, il a pleuré. Il dit, le mal que vous avez fait, Dieu l'a transformé en bien. Dieu m'a fait passer par cette souffrance pour vous sauver, vous. Bien-aimé, c'est cela. C'est cela. Dieu va nous utiliser, nous, pour le salut de nos familles, pour le salut de nos proches, pour le salut de tous ceux qui sont autour de nous. Mais il faut qu'on accepte de prendre le risque de mourir à nous-mêmes, de mourir à ce que nous pensons. Ce n'est pas facile, bien-aimé. Ce n'est pas facile. Tu arrives à un endroit comme ça a été le cas dernièrement où je suis parti à Paris pour des obsèques. Tu arrives à un bâtiment catholique. Il faut rentrer dans le bâtiment catholique. Ah, je dis, non, je ne rentre pas. Je suis resté tout seul dehors. Alors, vous savez, des papas, des enragés, des grands-pères qui viennent pour... Mais attends, toi, tu penses que tu es le seul qui connaît les choses? Non, on connaît les choses. J'ai dit, écoutez, moi, faites ce que vous avez à faire. En quoi, moi, là, un petit comme ça, je vous gêne? Mais entrez! Faites vos choses, moi, je vous attends dehors. Et ils venaient un par un, pression. Non, mais il faut honorer la personne quand même. Il faut. J'ai dit, moi, je n'entre pas. Je n'entre pas. Et le jour où le Seigneur permettra, eh ben, on parlera. Je dirai non. On ne peut pas, comme il est écrit dans 2 Corinthiens 6, 14, qu'on ne peut pas se mettre avec des infidèles sous un joug étranger, entrer dans ces bâtiments-là, où il y a des statues, où on adore des esprits. C'est pas de Dieu. Mais bien aimé, le risque, c'est de mourir quand même parce que là, les gens parlent. Hein. Ils vont dire, ah voilà, voilà encore lui, voilà encore, voilà. Bien aimé, c'est cela. Mais on doit accepter de mourir à nous-mêmes. Peu importe ce que les gens vont dire. Tant que c'est pas le péché qui reproche, tant que c'est pas un mauvais comportement, comprenons-nous bien, bien aimé. Je ne suis pas en train de dire que tu vas avoir un mauvais comportement et puis non. Tant que tu es dans la vérité, quoi qu'il arrive, elle dérangera les personnes. Elle dérangera. Elle dérangera. Mais la question c'est, suis-je un instrument du Seigneur? Et pour l'être, accepte de renoncer. Esther. Mardoché vient voir Esther pour lui dire, regarde, Aman a fait un complot contre les Juifs. Il veut tuer tous les Juifs. Alors comme tu es la femme du roi, va voir le roi pour plaider en notre faveur. Esther dit, mais comment je vais aller voir le roi? Si je rentre dans la cour du roi, je cours le risque d'être tué. Mardoché lui dit, écoute, fais attention, sache que si toi tu refuses d'aller voir le roi, sache que Dieu nous délivrera, parce qu'il est Dieu, mais il passera par un autre moyen. Mais toi, ne pense pas que tu seras épargné. Et là, Esther dit, écoutez, priez pour moi. Jeûnez 3 jours, priez et j'irai voir le roi, je prends le risque. Elle a pris le risque d'aller voir le roi, parce que aller voir le roi sans être convoqué ou appelé par le roi, on te tuait sur le champ. Elle a pris le risque d'aller. Et finalement, c'est tout le peuple juif qui a été sauvé. Mais elle a pris ce risque-là. Bien aimé, c'est ça être chrétien. C'est prendre le risque. C'est accepter de mourir pour le salut des autres. C'est cela. Les amis de Daniel qui ont résisté devant le roi Nabucodonosor, ils sont allés dans la fournaise ardente. Un homme, regarde, le roi dit, mais attendez, il y avait 3 hommes qu'on a mis dans la fournaise. Comment ça se fait qu'il y en a 4? Je vois un homme qui est semblable au fils d'un... il est semblable à un ange. Finalement, ces hommes sont libérés de la fournaise et le roi décrète, il dit à partir d'aujourd'hui, le véritable Dieu, c'est le Dieu d'Israël. Le véritable, le seul véritable Dieu, c'est lui. Bien-aimé, c'est cela. Ces hommes-là ont pris le risque de mourir, mais ça a produit la conversion du roi qui a reconnu que le Dieu d'Israël est le véritable Dieu. Et Dieu nous exhorte aujourd'hui à renoncer à notre vie. C'est ça qui nous empêche, qui empêche beaucoup de suivre le Seigneur. C'est parce qu'on tient encore à nos projets. On tient à nos projets. Il y a des gens qui ont des projets, ils se disent, bon, je termine mes études, je ferai tel, moi c'était ça mes projets, dans ma tête c'était des calculs, bon, je termine mes études. Après, comme c'est que j'ai des connexions plus ou moins, je rentre en politique, donc tout était tracé. Tout était tracé. Je rentre en politique, bon, je fais ma petite carrière, je fais... Mais quand le Seigneur est passé par là, on comprend que tout cela n'a aucune valeur. Ça n'a aucune valeur. Ce qui a de la valeur, c'est servir le Seigneur tous les jours. C'est ça. C'est ça qui a de la valeur. C'est ça qui a de la valeur. Jésus-Christ a donné sa vie pour que nous nous soyons sauvés. Jésus a renoncé à sa vie pour que nous nous ayons le salut. Et conséquence, lorsqu'on renonce à sa vie, quelles sont les conséquences? Les conséquences, c'est que on accepte les critiques. On accepte qu'on se moque de toi. On accepte d'être repris. Vous vous rendez compte, un homme comme Pierre venir reprendre Jésus pour lui dire, non Seigneur, tu ne feras pas, on ne fera pas comme ça. On fera. Bien aimé, il faut avoir du courage. Mais Jésus a accepté cela. Parce qu'en réalité, sa vie appartient à Dieu. Il vient pour laver les pieds et Pierre lui dit, non, 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 je ne veux pas. C'est pas à toi de le faire, Jésus. Jésus dit, écoute, fais comme je te demande de faire. Laisse-moi te laver les pieds. Laisse-moi faire. Arrière de moi, Satan, Pierre lui dit, non, mais Seigneur, tu n'iras pas à la croix. Jésus dit, arrière de moi, Satan. Pierre a eu le courage de se mettre devant le Seigneur. Mais le Seigneur a accepté. Pourtant, il y a des chrétiens qui ne supportent pas d'être contredits. Ils ne supportent pas du tout. Ils ne supportent pas. Acceptons cela. conséquences quand notre vie ne compte plus. Alors, on considère réellement la famille de Dieu. Acte 2, acte 4, on dit qu'ils mettaient tout en commun. Leurs biens ne les appartenaient plus parce que ça appartenait au Seigneur. Et il est écrit que Dieu manifestait sa gloire tous les jours. Il rajoutait ceux qui étaient sauvés à la communauté et la crainte s'emparait de chacun bien-aimé. Quand ma vie ne m'appartient plus, alors je vis réellement la famille de Dieu. C'est ça. Et dans la famille de Dieu, comme dans toute famille, il peut arriver qu'il y ait des petites frictions, mais ça ne va pas affecter notre relation parce que la relation, elle est là. Dans la famille charnelle, on sait que c'est mon grand frère, c'est mon petit frère, même si il arrive qu'il y ait des frictions, mais ça reste mon frère. C'est ça. Et dans la famille du Seigneur, celui qui sait renoncer à lui-même, eh bien, à un moment donné, il se fait petit. Toi, tu veux être grand. Bon, ok, moi, je me fais petit. C'est ça. Jésus dit dans Luc 9, hein, il dit, quand tu arrives dans une fête, mets-toi où? Mets-toi à la dernière place. C'est ça. Mets-toi à la dernière place. Comme ça, le maître de la fête, quand il vient, il dit, oh, maintenant, il y a un problème. Pourquoi tu es là? Viens. Et là, il te fait passer devant tout le monde. Mais si tu arrives, tu veux toujours être à la première place, on va dire, non, non, monsieur, votre nom. Ah non, vous n'êtes pas sur la liste. Allez. Attendez dehors, ah, quelle honte. Quelle honte. Et c'est ce qui arrive à ceux qui ne veulent pas renoncer à leur vie. Le Seigneur permettra des situations où on sera humilié. Alors, vaut mieux, bien-aimé, s'humilier tout seul avant que le Seigneur t'humilie. Vaut mieux faire des choses. Hein. Vous savez, parfois, il y a on fait un accident, il y a ce qu'on appelle des contrats à l'amiable. On fait à l'amiable, on dit, bon, écoute, il y en a pour 500 euros, bon, c'est chaud, mais je vais voir si je peux négocier pour payer en plusieurs fois, je prends en charge. Mais il y a des têtus qui vont dire, non, 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 non. Mais ça finit où, au tribunal? Mais devant le juge, ça ne sera pas 500 euros. Devant le juge, ça sera peut-être 3000 euros. Voilà. Et comme tu es têtu, tu diras, non, je ne paye pas. Tu ne payes pas, ce ne sera plus 3000 euros, ça va monter encore. Jusqu'à ce que tu seras vraiment inquiété. Jusqu'au bout. Alors que quand les choses sont petites, tu peux négocier, dire bon, allez, on s'arrange. C'est ça. Et si tu ne veux pas renoncer à ta vie, voilà ce qui va arriver. Bien-aimés, acceptons de renoncer à notre vie. Il y a trop de conflits parmi les chrétiens, parfois même dans les couples. Il y a trop de conflits parce que chacun tient à son honneur. Chacun tient à sa fierté. Chacun tient à ce qu'il pense. Chacun tient à ce qu'il dit. Chacun tient à ce qu'on le respecte. Mais à un moment donné, ça ne marchera pas parce que si chacun tient à cela, il faut bien qu'il y ait un premier de la classe. Il faut les partager. Il faut les partager. Et si tu ne veux pas qu'on départage, c'est le juge qui va départager maintenant. Il va dire, bon, ok, je déclare que c'est elle qui est... Mais tu vas faire quoi maintenant à ce moment-là? C'est la honte. Le Seigneur nous exhorte, bien-aimés, disant comme Paul, j'ai renoncé à ma vie. Ma vie ne compte plus. Il y a beaucoup de choses à dire. Il y a des témoignages, même en tant qu'éducateur. Parfois, tu vois un petit de 12 ans qui vient, qui te parle d'une façon. Tu dis, bon, là, ça fait partie de mon travail. Et tu acceptes avec joie. Parce que si tu es aigri en colère, tu vas finir par craquer. Mais puisque tu as intégré que, non, finalement, ce jeune est en colère parce qu'il est en colère parce qu'il est en souffrance en réalité. Ce n'est pas après moi, c'est parce qu'il souffre. Là, tu appréhendes les choses différemment. Tu appréhendes les choses différemment. Mais si tu tiens, mais comment moi, à mon âge, il ne sait pas qui je suis, il va voir. Ben, bien aimé, tu vas tomber sur plus fort que toi. Tu vas toujours tomber sur plus fort que toi. Et le plus grand, le plus fort de tous, c'est Dieu. C'est Dieu. Alors renonçons, bien aimé, à notre vie. Quelle est notre richesse? Quelle est notre force? Disons au Seigneur, Seigneur, ma force, je me rends compte que c'est une faiblesse. C'est ce que Paul dit. Paul dit, tout ce qui était ma force, j'ai considéré que c'était une faiblesse pour moi. J'étais zélé, tué des chrétiens. En réalité, j'étais ignorant. J'étais faible. J'étais pharisien, pieux, religieux. Et il dit, en réalité, j'étais faible parce que quand j'ai réalisé que la grâce de Dieu sauve, c'est par la grâce que nous sommes sauvés, alors j'ai compris que j'avais fait fausse route. Nous allons prier, bien-aimés, pour que le Seigneur nous aide à renoncer. Nous savons tout ce qui, dans notre vie, nous empêche, tout ce à quoi nous, nous tenons dans notre vie. Prions pour que le Seigneur nous délivre de cela au nom de Jésus. Seigneur, nous venons prier pour que tu nous fasses grâce, Seigneur. Délivre-nous, Seigneur, de tout ce qui est notre force, tout ce qui est notre richesse, Seigneur. Seigneur, l'apôtre Paul dit, « Je ne fais aucun cas de ma vie comme si elle m'était précieuse. » Pourtant, comme il dit dans Philippiens 3, il avait sujet à se glorifier dans la chair. Mais il dit qu'il a compris que tout cela n'avait aucune valeur devant Jésus. Seigneur, pardonne-nous pour toutes les fois où nous avons tenu à notre vie, toutes les fois où nous tenons à notre honneur, Seigneur, à notre fierté. Toutes les fois où nous refusons, Seigneur, de nous humilier. Il est écrit, Seigneur, que tu fais grâce aux humbles, tu résistes aux orgueilleux, Seigneur. Que ce soit au travail, que ce soit dans la famille, Seigneur, que ce soit à la maison, Seigneur, aide-nous, Seigneur, nous voulons renoncer à notre vie. Réaliser que notre vie sans toi n'est rien du tout, Seigneur. Nous voulons que ta vie s'exprime en nous. Mais pour que ta vie s'exprime, Seigneur, nous faisons le choix de renoncer à notre vie aujourd'hui, Seigneur. Peut-être que nous manquons de douceur. Peut-être que nous manquons, Seigneur, d'amour, Seigneur. Peut-être que nous sommes dans la haine, dans la colère. Seigneur, délivre-nous, Seigneur, aujourd'hui. Nous voulons accepter que nous sommes perdus sans toi. Nous voulons renoncer à notre vie pour que ta vie à toi s'exprime au nom de Jésus. Merci pour ta grâce et ta fidélité, pour ta parole qui nous délivre et qui nous éclaire au nom de Jésus. Amen.